Vous écoutez On lit pour vous.
Sortir les conteuses des recoins de notre histoire. Un texte de Camille Verners, paru le 3 juillet 2025 dans Axel. Dans les siècles passés, nombreuses sont les femmes à avoir écrit des contes. Nous avons tendu nos oreilles dans les interstices de l'histoire pour écouter ce que les conteuses du 17e siècle continue à nous raconter sur notre société passée et présente. Le conte a longtemps été considéré comme un genre mineur et minable, explique à Axel Nadine Jasmin, docteur en littérature française. Au 17e et au 18e siècle, il a, peut-être parce qu'il intéressait moins les hommes, offert un écrin privilégié pour l'expression de l'imagination et de la créativité des femmes, à une époque où l'écriture féminine commence à s'installer dans le paysage littéraire. Cette période, qui constitue un âge d'or pour les contes, voit apparaître nombre de conteuses. On estime que 2/3 des contes écrits entre 1690 et 1709 en France l'ont été par des femmes. Chasse au trésor. L'une d'entre elles est particulièrement prolifique. Madame Daunois publie un quart de cette production, 25 contes sur 104. Nadine Jasmin a participé à la redécouverte des textes de cette autrice, qui a été aussi connue que Perrault et puis oubliée. La spécialiste a notamment compilé ses contes pour permettre à un nouveau public de s'y plonger. « Je suis partie dans une grande chasse au trésor pour retrouver ces textes », relate Nadine Jasmin. Je pense qu'il reste encore des contes méconnus sur lesquels je ne suis pas retombé. La luxuriance de son écriture m'a frappé. Les contes de Perrault ou des frères Grimm sont très courts. Certains font 5 pages. Madame Daunois butine à différentes sources. Ses textes font jusqu'à 50 pages, avec des aspects romanesques, épiques ou même parodiques. C'est elle qui forge l'expression « conte de fées », qui passera à la postérité. Passionnée par les contes depuis son enfance, Nadine Jasmin s'est intéressée à Madame Daunois dès ses études, pour son mémoire de master et pour sa thèse. Dans le milieu académique, elle a rencontré sur son chemin des échos modernes de ce que les conteuses de l'époque ont vécu. « Du mépris et du déni », résume-t-elle. Je ne m'intéressais pas à la grande littérature du 17e siècle, qui faisait l'objet d'un presque monopole masculin. Je ne parlais pas de Molière, ni de La Fontaine ou Perrault. Je m'intéressais à une femme dans un petit genre littéraire. Une vaste et dense forêt. Elle insiste d'ailleurs sur le fait que Madame Daunois n'était que l'une d'entre elles. Perrault est l'arbre qui cache la forêt des conteuses, une forêt vaste et dense. Et de citer en exemple la comtesse de Murat, Marie-Jeanne l'héritier de Villandon ou encore Catherine Bernard. Dans le monde dont on parle, les femmes ne vont pas à l'école. Il n'y a que les femmes des couches privilégiées de la société qui ont accès à une éducation très partielle. Le conte est critiqué parce qu'il est affaire de femmes, synonyme d'histoire populaire et superficielle qu'on raconte aux enfants, une partie de la population tout aussi méprisée que les femmes par l'élite intellectuelle, souligne Nadine Jasmin. Certains, visiblement inquiets, prennent même la plume, comme l'abbé de Villiers qui écrit dans « Entretien sur les contes de fées et sur quelques autres ouvrages du temps » pour servir de préservatif contre le mauvais goût, 1699. Aucun philosophe et aucun habile homme n'a inventé ou composé des contes de fées. L'invention en est due à des nourrices ignorantes. Quand les princesses sortaient déjà du château. Non seulement les contes sont écrits majoritairement par les femmes, mais elles créent des histoires mettant en avant des héroïnes actives. Chez Madame Daunois, notamment, les princesses ne restent pas dans la tour du château. Elles en sortent. Dans le conte « L'oiseau bleu », la situation est complètement renversée. C'est l'héroïne qui part chercher son prince charmant, analyse Nadine Jasmin. Déjà à cette époque, des histoires se réinventent pour donner à voir d'autres représentations, ce qui est toujours d'actualité, mais n'étonne pas la spécialiste. Les contes, ce sont des variations infinies sur une même ossature qui nous vient de très loin. On peut s'en emparer pour modifier certaines choses. On peut faire endosser à une même histoire différents habits. C'est intrinsèque à la nature du conte, puisqu'il nous vient de la transmission orale qui implique une fluidité liée à la personne qui raconte. Cette liberté, par exemple, de féminiser, existe. Dans le conte merveilleux, le pacte de lecture est clair. Cela commence par « Il était une fois ». Nous entrons dans un univers imaginaire. Suspendez toutes vos croyances. Ne prétendez pas au réalisme et amusez-vous. L'oralité est toujours fortement présente au moment où Madame Daunois écrit ses textes. On n'est plus dans une société basée uniquement sur l'oral. Cependant, la lecture silencieuse comme on la connaît est quelque chose de très rare et étrange. Seuls 10% de la population sait lire et écrire. Les livres font l'objet d'une oralisation, c'est-à-dire qu'on va les lire à voix haute, dans un espace collectif, explique Nadine Jasmin. Cela se passe dans les salons littéraires, ces cercles mondains où les femmes sont les reines, à défaut de tirer les reines politiques. Elles peuvent prendre la parole dans ces lieux, c'est une espèce de revanche symbolique. Ces conteuses ont eu des vies privées passionnantes, à l'image de leurs histoires. Madame Daunois s'enfuit après un complot pour tuer son vieux mari et devient espionne. Madame de Murat, de son côté, est lesbienne, ce qui dérange, conclut Nadine Jasmin. Et aujourd'hui, si les contes ont constitué un espace de liberté pour les femmes des 17e et 18e siècles, qu'en est-il aujourd'hui? Je suis arrivé dans l'univers du conte un peu par hasard, après une réorientation professionnelle, observe Kyung Wilput, conteuse bruxelloise. Ce que j'aime, c'est que c'est moi, la conteuse, qui transmet l'histoire au public, et non un personnage que je jouerais en tant que comédienne, par exemple. Je m'intéresse fortement aux contes merveilleux traditionnels, et j'aime l'idée de m'inscrire dans cette tradition orale. Par leur symbolique, ils ont un aspect universel dans leur quête identitaire. En tant que femme adoptée en Belgique, les contes m'ont permis de trouver une légitimité et de prendre la parole en public. Ce n'est pas un geste anodin de dire à un groupe « Taisez-vous et écoutez-moi ». Pour moi, c'est un acte citoyen. On est responsable de ce qu'on transmet au public. Le secteur est composé majoritairement de travailleuses féminines en Belgique. Nous menons des réflexions sur cette question, notamment au niveau de la Fédération de conteurs professionnels dont le nom est au masculin, souligne Kyung Wilput. Les contes n'ont donc pas fini de porter les voix des femmes et de tracer d'autres voies possibles. C'était « Sortir les conteuses des recoins de notre histoire », un texte de Camille Verners paru le 3 juillet 2025 dans Axel.
La fin de l'exemption douanière pour les petits colis fait mal aux PME. Un texte d'Annabelle Cailloux paru le 27 août 2025 dans Le Devoir. La fin imminente de l'exemption de droits de douane sur les petits colis à destination des États-Unis inquiète des entreprises québécoises. Dès vendredi, ces paquets seront à leur tour assujettis aux tarifs imposés par le gouvernement Trump. Une mesure qui risque d'alourdir les coûts pour les entrepreneurs, de compliquer l'expédition de leurs produits, voire de faire fuir leur clientèle américaine. Jusqu'ici, on était épargné par les tarifs grâce aux exemptions de minimi. On ne s'attendait vraiment pas à ce revirement de situation. Il y a un risque qu'on perde nos clients américains, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Confie Anne-Marie Laflamme, cofondatrice de la boutique de vêtements montréalaise Atelier B. Depuis le 29 août 2025, les petits paquets de moins de 800 $ US sont désormais soumis à une taxation de 15 à 35 % de la valeur des produits envoyés aux États-Unis. Jusqu'ici, les petites et moyennes entreprises canadiennes bénéficiaient d'une exemption sur ces petits colis, l'exemption de minimi. Le président américain Donald Trump a toutefois décidé, au début du mois d'août 2025, de leur retirer cet avantage. Ce n'est que cette semaine, en recevant les directives de Poste Canada, qu'Anne-Marie Laflamme a réalisé qu'il reviendrait aux entreprises canadiennes de payer les taxes avant l'expédition. 35 % de taxes, ça fait vraiment une grosse différence, souligne-t-elle en colère. Elle a bien envisagé de faire accréditer ses créations pour bénéficier de l'exemption prévue pour les produits conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM, mais cette démarche semble semée d'embûches. Ça semble compliqué pour une petite entreprise comme nous, et ce n'est pas comme si on avait les moyens d'engager un avocat ou quelqu'un pour s'occuper de la paperasse, ajoute-t-elle. Même si elles expédient un produit conforme à l'ACEUM, les entreprises d'ici devront remplir une déclaration formelle et des formulaires, trouver le code spécifique à chaque produit, indiquer la matière et l'origine des composants, confirme Christina Santini, directrice des affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, FCEI. Envoyer un marque-page de 10 $ demandera la même quantité de paperasse qu'envoyer une montre de plusieurs milliers de dollars. Ça n'a pas de sens, s'insurge-t-elle. Se passer des clients américains? Lorsque contactée par Le Devoir, l'équipe d'atelier B hésitait encore à refiler, non sans remords, la facture à ses clients américains ou à suspendre ses livraisons aux États-Unis, comme d'autres entreprises de leur réseau ont commencé à le faire. On ne sait pas quoi faire, concède Mme Laflamme. On est dans un entre-deux inconfortable parce que même si nos envois vers les États-Unis ne représentent que 5 % de nos ventes, on en a besoin. En attendant, l'équipe prévoit écrire à ses clients américains pour expliquer la situation et évaluer leur intérêt à payer plus cher pour recevoir leur création. De son côté, la présidente et fondatrice de Soja et compagnie, une entreprise québécoise qui vend des bougies et des produits de bien-être écologique, ne peut envisager de se passer de ses ventes aux États-Unis. Ça aurait un impact important sur notre chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, 8 % de nos ventes vont vers les États-Unis et ça peut monter jusqu'à 15 % si on tient compte de la période des fêtes qui arrive, indique Laurence Gaudreau-Pépin. Elle explique que son entreprise a vu son nombre de transactions exploser dans la dernière année sur le site Faire. Celui-ci permet à des commerces des États-Unis ou d'ailleurs d'acheter ses produits pour les revendre en boutique. Est-ce qu'ils vont continuer à vendre nos produits si ça leur revient plus cher? Se questionne-t-elle. Ça m'inquiète beaucoup. Avenir incertain. C'est un défi de taille, un handicap majeur, devrais-je dire, pour les PME d'ici. Ce sont des frais supplémentaires importants, surtout pour celles qui vendent beaucoup aux États-Unis, critique le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Damien Siles. De son côté, la FCEI estime qu'environ 30 % de ses membres seront touchés par ces nouveaux droits de douane. Parmi nos membres, une entreprise sur 5 estime qu'elle ne pourra survivre plus de 6 mois en raison des droits de douane et des contre-tarifs canadiens. Et 40 % des membres craignent de ne pas survivre plus d'un an. S'inquiète Christina Santini. Poste Canada continue la livraison aux États-Unis. Les entreprises canadiennes ne sont pas les seules à devoir tirer un trait sur les exemptions de minimi. L'ajout de tarifs douaniers sur les petits colis envoyés aux États-Unis a fait beaucoup de bruit ces derniers jours à travers le monde. Quelques 25 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Inde et l'Australie, ont décidé de suspendre leur livraison vers le pays de Donald Trump selon une recension de l'Agence postale de l'ONU. La raison évoquée? Plusieurs services postaux ne sont tout simplement pas équipés pour prélever de tels droits de douane et n'ont pas pu s'y préparer en raison du court délai entre l'annonce et l'entrée en vigueur de la mesure. De son côté, Poste Canada ne compte pas leur emboîter le pas et dit s'efforcer de mettre en place des solutions pour sa clientèle. La société d'État est en train d'intégrer le fournisseur Zonos, qui se spécialise dans les solutions technologiques pour les services transfrontaliers. Il percevra les droits de douane et les versera directement au service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, explique Poste Canada dans un courriel envoyé au Devoir. Elle précise que les documents et les cadeaux valant moins de 100 US expédiés par des particuliers et non des entreprises seront exemptés des droits de douane. C'était la fin de l'exemption douanière pour les petits colis fait mal aux PME. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir.
Blaise Durivage plonge au cœur de l'homoparentalité. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 2 septembre 2025 dans le magazine Fugue. Blaise et Philippe sont papas de deux garçons, Félix et Elliot, qui est autiste. Devant les défis de l'homoparentalité, de la neurodiversité et de la crise de mère parfaite qui flash son bonheur sur Instagram, ils sont à bout. Et attachant. Et vrai. Le premier livre de Blaise Durivage, Puis, un jour, il a fallu faire des lunchs, vient d'arriver en librairie. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es l'un des premiers à placer l'homoparentalité au centre d'une histoire au Québec? Mon Dieu, je suis honoré. Quand on cherchait à adopter, ça m'a manqué de lire des histoires sur des couples comme le nôtre. Les seuls modèles qu'on avait au Québec, c'était Joël Legendre. J'avais l'impression qu'il était privilégié ou qu'il vivait une réalité à laquelle on n'avait pas accès. Je lisais beaucoup d'histoires sur des familles homoparentales qui se passaient aux États-Unis, mais ça ne nous rejoignait pas du tout. J'avais envie de montrer la normalité de nos familles, même si on est différent. Dans le livre, on comprend que vous êtes confronté au cliché genré du père et de la mère. À quel point est-ce encore présent? En adoptant, je ne pensais pas que ça nous frapperait aussi fort. On avait lu la documentation sur les familles homoparentales, où, presque naturellement, il y a un donneur de soins principal qu'on associe à la mère. C'est très spécial de jouer ce rôle, sans être totalement accepté par les mères. On a souvent entendu des remarques sur qui fait la mère et le père. Ce n'était pas du tout dénigrant, mais un constat. Ça ne m'insultait pas. C'est un beau rôle, mais c'est particulier dans la bouche de personnes que je connais peu. Ton alter ego est au bout du rouleau. Comment s'est-il rendu là? J'ai toujours essayé d'être parfait. Puisque notre famille est différente, je ne voulais pas que mes enfants soient catalogués comme ayant grandi dans une famille foquée parce qu'ils ont deux pères. En plus, avoir un enfant autiste, c'est très demandant. sans oublier les réseaux sociaux dont j'essaie beaucoup de me distancier. Quand j'ai eu mon premier garçon, je n'arrêtais pas de me comparer. Mon chum ajouterait que je suis très exigeant envers moi. J'aime ça que le monde soit bien autour de moi. On comprend très vite que tu envies le bonheur facile des autres et que tu essaies d'être aussi parfait qu'une bonne mère de famille. Pourquoi essaies-tu de correspondre à ce cliché irréaliste même pour les femmes? C'est une grosse question. Est-ce que ce sont les médias qui nous renvoient cette image? Est-ce le manque de famille homoparentale dans la sphère publique? J'ai tendance à me comparer aux mères parfaites, aux annonces de taille et aux personnages de mères qu'on voit dans les séries et dans les films, qui nous montrent surtout des familles hétéronormatives. Ou c'est peut-être juste mon caractère qui est envieux de facilité et de bonheur. Tu dis souhaiter que tes fils soient le petit gars que tu n'as pas été et tu leur imposes une certaine idée de la normalité. D'où vient ce désir qu'ils correspondent aux standards? Quand tu es parent, tu essaies de protéger tes enfants le plus possible. Tu ne veux pas qu'ils souffrent et qu'ils vivent des choses négatives, même si ça fait partie de la vie et qu'ils doivent les expérimenter. Je sais à quel point c'est difficile d'être hors norme. Tout au long de l'histoire, tu revisites ton passé pour explorer ton parcours avec l'homosexualité. Comment ça s'est passé? À l'époque, il y avait beaucoup d'histoires de rejet des parents, alors que ma famille est super importante pour moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'ils me rejettent. J'ai donc cheminé très lentement. Pourtant, j'ai vécu une expérience homosexuelle très jeune en tant qu'ado. Ça m'avait confirmé que j'étais gay, mais je préférais gérer ce que ça impliquait plus tard. Que veux-tu que les lecteurs retiennent du processus d'adoption dans la banque mixte? C'est une expérience exténuante et magique. C'est la chose la plus intense que j'ai vécue de toute ma vie. Ça vient avec des émotions que je ne revivrai jamais. Ça nous en apprend beaucoup sur nous et ça nous ramène à une certaine humilité. Que fais-tu dans la vie? J'enseigne depuis bientôt 20 ans. Je travaille en classe d'accueil auprès des élèves immigrants au primaire depuis 2 ans. J'ai toujours écrit pour moi-même. J'aspirais un jour à devenir un auteur. Quand j'ai eu des enfants, c'était la mode des blogs et il n'y en avait pas vraiment sur l'homoparentalité. J'ai commencé à écrire là-dessus pendant 2 ans. Puis j'ai été finaliste au prix de la Nouvelle Radio-Canada et la maison d'édition m'a approché. Pourquoi cette histoire est la première que tu publies? J'avais plusieurs idées. Je suis très attiré par la vie ordinaire qui me semble extraordinaire. Les gens de la maison d'édition ont proposé que j'écrive sur ma vie, puisqu'il y a peu de couples d'hommes qui ont adopté. En plus, j'ai un garçon autiste. C'est parti de là. Je craignais que personne ne s'intéresse à la vie d'un petit gros homosexuel de 40 ans, mais ils m'ont convaincu du contraire. J'aimais l'idée de faire de l'autofiction en me basant sur ma vie pour inventer certaines choses. Ça m'a allumé. C'était comme un rêve un peu fou. Info. Puis, un jour, il a fallu faire des lunchs. De Blaise Durivage, édition Libre Expression. C'était « Blaise Durivage plonge au cœur de l'homoparentalité », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 2 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Quatre choses à savoir sur les diamants créés en laboratoire. Un texte commandité paru le 4 mai 2024 dans la presse. Le monde a bien changé depuis l'ouverture de la première petite boutique Pandora à Copenhague, au Danemark, en 1982. Devenu aujourd'hui le plus grand fabricant de bijoux du monde, Pandora se tourne également vers les diamants créés en laboratoire. Découvrez 4 faits saillants sur ces pierres précieuses fabriquées à partir d'énergie 100% renouvelable. 1. Il est impossible de distinguer à l'œil nu un diamant de laboratoire d'un diamant extrait de mine. Les diamants confectionnés en laboratoire sont visuellement, chimiquement et physiquement identique aux diamants extraits de mines. Pandora utilise également un procédé qui reproduit celui de la nature. Résultat? Ces diamants sont tout aussi époustouflants et réels que leurs équivalents naturels, avec la même étincelle et la même clarté, indique Joshua Braman, vice-président principal du grand bijoutier danois. 2. Les diamants de laboratoire sont accessibles. Comme le processus de création en laboratoire s'avère rapide et peu coûteux, les joailliers comme Pandora sont en mesure d'offrir des pierres à un prix qui est jusqu'à 3 fois moins élevé que celui des diamants provenant de mines. Les diamants ont toujours été associés aux occasions spéciales. Nous croyons fermement qu'ils peuvent avoir une signification et qu'ils devraient être démocratisés pour apporter une touche de lumière au quotidien, selon Joshua Braman, vice-président Pandora. 3. Ils sont soumis aux mêmes critères de qualité que les diamants provenant de mines. Les diamants fabriqués en laboratoire sont eux aussi soumis aux normes de l'Association internationale de l'industrie du diamant, de même qu'aux standards de la Confédération internationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des diamants, perles et pierres, CIBJO. Les pierres créées en laboratoire sont généralement accompagnées d'un certificat soulignant leur niveau exceptionnel de qualité et de notation, fait valoir le vice-président de la marque. De notre côté, chacun des diamants que nous créons est fabriqué individuellement par des artisans qualifiés avec des normes rigoureuses pour une coupe, une couleur et une clarté remarquables. 4. Créer des diamants en laboratoire permet de réduire l'empreinte carbone de ceux-ci. Lorsque l'énergie utilisée pour produire un diamant en laboratoire est issue de sources renouvelables, cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte carbone d'un diamant que nous confectionnons en laboratoire est 95 % moins importante que celle d'un diamant extrait de la même taille, précise Joshua Braman, qui ajoute « En optant pour cette technologie et en transitionnant vers l'utilisation d'argent et d'or recyclés pour nos bijoux, nous avons pu réduire les émissions de nos activités de 27 % depuis 2019. » C'était « 4 choses à savoir sur les diamants créés en laboratoire », un texte commandité paru le 4 mai 2024 dans La Presse.